pour le petit côté historique, pendant 3 saisons, j'ai animé des séances hebdomadaires philosophie et la psychanalyse. Et j'ai trouvé que la chose s'épuisait un petit peu. Et de voir comment on pouvait maintenir des rencontres autour de la pensée, par la pensée, se retrouver par des choses qui nous interrogent. Et c'est pourquoi, si vous voulez, ça fait un bout de moment que j'ai envie de faire la peau au système de pensée binaire. Et j'ai pensé que partir du genre, c'était un très bon début, comme quelque chose d'initial et premier, quelque chose à déconstruire à travers différentes rencontres, différentes entrées, et essayer de comprendre cette chose et comment faire ensuite par rapport aux personnes qui sont là pour pouvoir diffuser un petit peu ses pensées, chacun à sa manière. Cette séance sera enregistrée. Donc, tout à l'heure, lorsque les deux intervenants ici présents et intervenantes prendront la parole, il y aura un échange avec la salle. Je vous demanderai d'attendre le micro, comme je n'ai pas fait moi tout à l'heure, afin que vos interventions soient bien audibles lorsqu'on voudra réécouter sur le site de la Maison Populaire cette rencontre. Afin d'animer ces rencontres, j'ai demandé à Vincent Essé, qui se présentera, Vincent a essayé d'animer toutes ses rencontres en qualité de modérateur, qui lui-même a participé à l'association d'ACTAP et à Bistouri. Oui. Peut-être que tu diras un petit mot sur toi le moment venu. Et de toute façon, sans plus tarder, juste encore un petit mot. Si vous souhaitez qu'on vous envoie les informations, il y a des petits papiers dans l'entrée, vous pouvez nous laisser vos emails en partant tout à l'heure pour recevoir régulièrement les informations. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Vincent qui va nous présenter nos invités.
Bonsoir et merci d'être venus aussi nombreux, nombreuses. Ce soir, pour la première séance du séminaire Genre, normes et transgressions, nous allons évoquer l'origine et les puissances des normes avec Frédéric Rambaud, professeur de philosophie à Paris 8, et Sabine Procoris, psychanalyste.
Bonjour, je m'appelle... Un micro, d'accord. Je m'appelle donc Frédéric Rambaud et je travaille... sur la notion de désidentification dans les philosophies françaises contemporaines des années 60-70, Deleuze, Foucault et dans une moindre mesure Derrida. Et j'essaye de reprendre un certain nombre de thèmes par lesquels on les identifie, on les associe, et de montrer qu'ils n'ont pas le caractère d'évidence de solutions héritées qui sont un peu plus problématiques. Alors, je remercie Annie Agopian de m'avoir invité aujourd'hui, mais je ne veux pas non plus cacher ma réserve à l'endroit du couple normes et transgressions, du moins mon hésitation, mon indécision quant à l'utilité et à l'intérêt de la notion de transgression. Bref, je préférerais ne pas avoir à parler de transgression. Et si je dis que je préférerais ne pas en parler, je veux dire aussi que plutôt que de parler de la transgression des normes, je voudrais parler de quelque chose comme leur dénégation, leur suspension, leur nature ou leur devenir indécidable. Alors, il ne serait pas inutile de reprendre en détail l'histoire contemporaine de la notion de transgression. Je retiens seulement que la promotion sans précédent de cette notion-là chez des auteurs comme Bataille, Blanchot, Klossowski s'inscrit, c'est assez connu, dans une relecture et dans un éloge de Sade, dans l'exploration des marges et à travers cette exploration, dans la manière dont la sexualité est portée aux limites de la conscience et du langage. Et pour le dire un peu schématiquement, le modèle de la transgression suppose, bon, d'une manière ou d'une autre, que le désir soit rapporté à une loi qui lui est extérieure, à un impératif moral qui est par rapport à lui toujours transcendant. Alors, on peut raffiner les rapports entre ou l'opposition entre d'un côté le désir et la loi. À un niveau minimal, on peut dire que bon, on aura une sexualité naturelle, spontanée, qui s'oppose à une norme extrêmement répressive, inhibante. Puis, si on raffine un peu le modèle, on aura l'idée d'un interdit ou d'une loi tout à fait constitutive du désir lui-même. Mais, bon, dans tous les cas, le désir reste toujours assujetti à une loi qui lui est transcendante, il reste assujetti à un rapport fondamental à l'interdit. Alors, c'est pourquoi Deleuze, dont je vais un peu parler, Deleuze qui lui s'intéresse au processus purement immanent du désir, c'est pourquoi donc Deleuze aurait sans doute préféré ne pas parler de transgression. Mais si malgré tout il croise la question de la transgression, s'il ne peut pas faire autrement que la croiser, c'est que dès le début, il a décidé de faire du masochisme le modèle privilégié de la construction de ce processus immanent du désir. Alors, du masochisme et pas du sadisme. Ça, c'est une première chose qui n'est pas inintéressante, puisqu'il s'agit de mettre en lumière, ou de rendre justice, si on veut, à sa chère masoche, un peu occultée hein, par le succès sans précédent qu'a eu Sade chez les penseurs de la transgression. Donc, il ne s'agit pas non plus de réhabiliter sa chère masoche, comme ses prédécesseurs l'ont fait avec Sade, mais bon, de transformer radicalement les rapports entre le désir et la loi, rapport tel qu'il est pensé à cette époque-là, sur le modèle de la transgression. Donc de repenser ce rapport-là grâce à une analyse à la fois critique, une analyse des textes littéraires de Masoch, et clinique, une analyse de la perversion, de ce qui est répertorié comme perversion, le masochisme. Alors, ce que Deleuze reconnaît dans le masochisme, et c'est ça qui m'a intéressé, c'est que c'est une perversion qui, précisément, n'a rien d'une transgression. La perversion, et c'est même sans doute plus général que seulement pour le cas du masochisme, la perversion deleuzienne, elle n'est pas transgressive, elle est suspensive. Et c'est son caractère suspensif, hésitant, qui lui donne, selon Deleuze, une singulière et une très forte puissance de contestation et de subversion. Alors, la condition pour opérer une telle dissociation de la perversion et de la transgression, c'est d'abord que la critique littéraire soit indissociablement une analyse des normes et de leur fonctionnement social. Autrement dit, bon, c'est une réflexion sur la vie des normes. Bon, une réflexion instruite par Georges Canguilhem, sa réflexion sur le normal et le pathologique, par Geoffroy Saint-Hilaire, sa réflexion sur la tératologie, la science des monstres. Bref, c'est grâce à tout ça, et à cette analyse de la vie des normes, que l'utilité même du concept de transgression est chez Deleuze disqualifiée, qu'elle n'a pas d'intérêt ni au niveau critique, ni au niveau clinique. Alors, ça passe chez Deleuze, en tout cas, notamment par la reprise de la distinction qui a été établie par Canguilhem entre l'anormal et l'anomal. Bon, alors, on peut le dire assez simplement, même si sans doute c'est bon, beaucoup plus sophistiqué que ça, mais enfin, simplement, on comprend bien que l'anormal, c'est ce qui est considéré comme une déviation à partir d'une norme préétablie, une norme qui fonctionne comme une règle prescriptive et comme une règle déterminante. Donc c'est avant tout un terme dépréciatif qui vise à désigner ce qui est contraire à la norme. Alors que l'anomale au sens de Canguilhem, c'est un terme descriptif et plus dépréciatif qui vient désigner l'insolite, l'inaccoutumé, mais pas seulement l'insolite, l'inhabituel, mais aussi cet insolite considéré comme une variation, comme une différence singulière. Bon. Et c'est à partir de tels cas singuliers, à partir de ces variations, que la norme petit à petit se dégage par un système de variations mineures. Donc si j'ai rappelé un peu à la hache, cette, cette distinction entre anormal et anomale, c'est pour dire que ce qui a intéressé Deleuze, c'est le fait que la norme varie toujours de manière immanente. Et c'est pourquoi on comprend bien à partir de là, quoi, que la perversion n'est pas une transgression, donc elle est rien de plus qu'une variation inhabituelle, et donc, parce qu'elle est inhabituelle, plus intéressante qu'une autre. Seulement, évidemment, ces variations mineures, elles ont un caractère particulier qui en fait des perversions. Ce n'est pas n'importe quelle variation mineure. Et alors, selon Deleuze, ce qui fait que ces variations mineures sont des perversions, c'est qu'elles indiquent spécialement un état, justement, d'indécision, un état de suspension ou d'hésitation. Alors, moi, je vous propose juste de lire deux phrases de Deleuze qu'on trouve dans Logique du sens, et qui est, enfin dans Logique du sens, c'est plus spécialement dans l'appendice que Deleuze consacre à la perversion chez Klossowski. Alors voilà ce qu'il dit de la perversion. Ce qu'on appelle pervers, c'est précisément cette puissance d'hésitation objective dans le corps, cette patte qui n'est ni droite ni gauche, cette détermination par cascade, cette différenciation ne supprimant jamais l'indifférencié qui se divise en elle, ce suspens qui marque chaque moment de la différence, cette immobilisation qui marque chaque moment de la chute. Bon, alors, à partir de cette définition quoi, que donne Deleuze de ce qu'on appelle pervers, on comprend pourquoi dans la préface qui consacre à la Vénus à la fourrure de Sacher Masoch, le masochisme n'est pas décrit comme, évidemment, bon, il n'est pas décrit comme une déviance pathologique, ça on pouvait s'y attendre, mais il n'est pas non plus décrit comme une transgression qui serait constitutive de l'impératif moral. Au sens où il dirait il y a dans toute loi morale quelque chose de masochisme. Non. Il est d'abord décrit, le masochisme, comme un agencement de désir qui fonctionne selon un processus de dénégation et de suspension. Alors bon, je crois qu'on comprend assez bien quand on lit Sacher Masoch, hein, on voit bien que le ressort romanesque dans les romans de Masoch tient tout entier dans l'art du suspens. Il suffit de penser, bon, je veux dire, aux figures du héros, comme Séverin dans la Vénus à la fourrure, qui est bon, littéralement suspendu. Il est accroché, il est crucifié, bon, enfin bref. Tout un tas de postures qui sont comme des scènes figées, qui sont comme des arrêts sur image. Et ça vaut aussi pour la femme bourreau, qui est toujours présentée dans des scènes d'arrêt. Hein, le mouvement d'abattre son fouet, le mouvement d'entrouvrir sa fourrure, bon, tout un tas de mouvements qui sont suspendus. Et c'est cette suspension esthétique, hein, toujours très esthétisée, qui provoque la cascade hein, et la répétition, l'itération de ces gestes. Itération mécanique, hein, comme un automatisme, une répétition automatique. Alors, bon ça c'est vrai, c'est ce que dit Masoch, quoi. Bon, mais l'originalité de Deleuze, à cet égard, c'est de mettre en rapport cet art du suspens chez Masoch avec la théorie freudienne de la dénégation, la Verneinung. Qui, selon Freud, bon, caractérise la perversion comme le refoulement caractérise la névrose ou la forclusion caractérise la psychose. Bon, alors, pour le dire encore une fois un peu schématiquement, quoi, ce que Freud explique, c'est que le fétichiste se caractérise par un refus de reconnaître bon, le fait que la femme n'a pas de pénis. Autrement dit, selon Freud, la dénégation perverse, c'est une manière de suspendre hein, la connaissance d'une situation réelle. Autrement dit, bon, le pervers le sait, hein, il connaît le fait, la situation telle qu'elle est, seulement il fait comme si ça n'était pas le cas. Et alors à partir de là, bon, Freud montrera comment le fétiche bon, est un substitut du phallus féminin qui fonctionne, c'est ça qui intéresse Deleuze, hein, comme une image arrêtée. Hein, bon, si on pense à la chaussure, on comprend bien comment elle peut cristalliser le moment d'avant la découverte de cette absence de pénis chez la femme, le moment d'avant les suites tout à fait fâcheuses hein, pour le pervers en question de son exploration. Bon, alors, je ne veux pas revenir en détail sur la théorie extrêmement complexe de Freud. Ce que je veux juste souligner, c'est ce qui intéresse Deleuze, quoi, ce qu'il y reconnaît là-dedans. Et ce qui l'intéresse, c'est qu'il reconnaît dans cette suspension, dans cette hésitation, une force très puissante et très dangereuse aussi, mais une force très puissante de contestation. Là où habituellement on serait tenté de dire que, on serait tenté de n'y reconnaître, je dirais qu'un manque de volonté, un côté un peu faible, un manque de détermination. Alors, précisément, Deleuze, à l'inverse, il reconnaît une effectivité très forte, une puissance de subversion très forte. Je lis juste deux phrases qui sont tirées de la présentation de Sacher Masoch, donc de Deleuze. Il me semble à cet égard extrêmement clair. Voilà ce qu'écrit Deleuze. Il pourrait sembler qu'une dénégation en général est beaucoup plus superficielle qu'une négation ou même une destruction partielle. Mais il n'en est rien. Il s'agit d'une toute autre opération qui ne consiste pas à nier, ni même à détruire, mais bien plutôt à contester le bien fondé de ce qui est, à affecter ce qui est d'une sorte de suspension, de neutralisation propre à nous ouvrir, au-delà du donné, un nouvel horizon non donné. Une neutralisation propre à nous ouvrir, au-delà du donné, un nouvel horizon non donné. En bref, c'est une manière de donner un avenir, cette suspension perverse, c'est une manière de donner un avenir à la pensée ou au désir. Alors je crois que si on garde ça en tête, on comprend mieux aussi ce qui a pu fasciner Deleuze, dans la célèbre formule de Bartleby, d'Herman Melville, « Je préférerais ne pas », par laquelle j'ai cherché à commencer ce petit exposé. Alors évidemment, on connaît la formule de Bartleby, c'est une sorte de formule très énigmatique, que le clair oppose systématiquement, automatiquement, aux requêtes les plus polies et les plus courtoises de son patron. Alors, évidemment, dans cette formule, il y a le ressort comique de la nouvelle. Bon, évidemment, ça fait rire, Mais ce n'est pas ce qui intéresse le plus Deleuze. Ce qui l'intéresse, c'est que, à force d'être répété, je préférerais ne pas, à force d'être opposé systématiquement à ses requêtes, eh bien, progressivement, toute l'organisation, toute la structure rationnelle de l'étude et de la vie de l'avoué, toute cette organisation commence à fuir. Commence à se distordre, et petit à petit, tout fout le camp. Alors, on pourrait dire que, dans les termes de Deleuze, cette formule, elle fonctionne comme une ligne de fuite. Dans les termes de Guattari, comme un trou noir. Moi, je crois qu'on pourrait aussi dire qu'elle fonctionne comme un appel d'air. Au sens où, avec l'appel d'air, on voit bien comment, à partir d'un appel d'air, toute une organisation se distord, se désarticule. En l'occurrence, qu'est-ce qui se désarticule? Qu'est-ce qui se distord? C'est tout notre cadre de représentation habituel, tout notre cadre de représentation commun. C'est une formule qui désarticule toute la puissance de lien qu'on peut faire entre les choses telles qu'elles nous apparaissent. Les liens entre les causes et les effets, les liens entre les individus et puis les motifs qui les poussent à agir, les liens aussi entre les manières dont on peut influencer, orienter ou induire les comportements. Alors, préférer ne pas, c'est-à-dire aussi bien renoncer à toute préférence, on dirait c'est le versant négatif, je renonce à toute préférence, mais aussi bien affirmer, c'est le versant positif, affirmer une non-préférence absolue, au sens de dissocier de tout lien. Voilà ce qui conduit à cette dissolution totale de notre représentation, de la manière dont on envisage les individus, et puis les enchaînements représentatifs entre les choses. Et cette dissolution amène l'ouverture de quelque chose comme un espace totalement indéterminé, un espace impersonnel, un espace de singularité dispersée, qui n'ont plus rien de personne ou d'individu. Donc c'est aussi une entreprise de dépersonnalisation, extrêmement forte. Alors, je crois qu'à partir de là, on peut avoir une bonne illustration de la manière dont Deleuze lui-même procède, de la pratique même de la philosophie chez Deleuze. Je veux dire que dans une situation donnée, par rapport à tel problème, à tel horizon de question, Deleuze n'est pas quelqu'un qui cherche à prendre position. C'est pas quelqu'un qui cherche à objecter, à dire oui, à dire non. On dirait que c'est pas vraiment son problème. En tout cas, quand il le fait, quand ça lui arrive de le faire, Il le fait toujours par rapport à un problème, par rapport à une problématique qui, en réalité, fait fuir hein, toute la situation telle qu'elle est établie. C'est-à-dire désarticule, désorganise tout le champ de pensée ou d'interrogation préexistant. Alors, évidemment, être pris, je ne pense pas que ce soit quelque chose de volontaire, évidemment, quoi, mais être pris dans cette aspiration, hors du cadre de notre représentation habituelle, a aussi quelque chose de terrifiant. Enfin, je veux dire, on ne peut pas le cacher. Et évidemment, bon, c'est dit dans un langage des multiplicités joyeuses et intensives, mais enfin, bon, évidemment, c'est très dangereux et c'est très risqué. Et on comprend bien comment, à partir de là, on peut facilement s'effondrer dans des sortes de catatonies, dans des apathies, dans des sortes d'hébétudes, ou bon, plus communément, dans des formes de bêtises, quoi. Dans la fête de l'âne, de roule de l'âne de Buridan, il ne sait pas quoi préférer. Mais ce que nous dit Deleuze, et c'est pas rien, c'est que selon lui, c'est la seule manière, il n'y en a pas d'autre, c'est la seule manière d'ouvrir un horizon non donné, de proposer un avenir au désir et à la pensée. Bon, alors si maintenant on revient au masochisme, à l'analyse qu'en propose Deleuze, on peut se demander en quoi, je veux dire, la suspension masochiste, l'art du suspens chez Masoch, produit ce type d'appel d'air qui fait fuir, dans le cas de ce processus du désir, qui fait fuir la régulation établie, la discrimination établie du désirable. Première question, et puis deuxièmement, on peut se demander aussi quel risque, quel danger dans la construction lente, patiente, de ce processus immanent du désir, au sens où Deleuze dit que ce processus du désir n'est pas spontané, mais qui se construit, c'est-à-dire qu'il demande un travail et une forme d'ascèse, une forme de discipline. Alors, Deleuze dit assez clairement que la suspension masochiste tient essentiellement dans une inversion du rapport entre le plaisir et la répétition. Autrement dit, plaisir et répétition échangent leur rôle. Au sens où, au lieu de vivre, au lieu de vivre la répétition comme une conduite à l'égard d'un plaisir obtenu ou à obtenir, au lieu de vivre la répétition comme une manière de retrouver un plaisir qu'on a déjà connu, dans le masochisme, c'est la répétition qui, d'elle-même, se déchaîne, dissociée de tout plaisir. Autrement dit, la répétition elle-même devient indépendante de tout plaisir préalable. Bon, autrement dit, dans le masochisme, dans cet art du suspens, le processus du désir est totalement dissocié du principe économique de plaisir, qui est le principe qui régule le désir, qui régule le désirable, en tout cas dans la vie psychique. Alors, cette dissociation, cette sortie hors de la juridiction du principe de plaisir, pour Deleuze, elle correspond à l'apparition de ce qu'il appelle l'instinct de mort. L'instinct de mort pour lui-même, c'est ce que dit Deleuze. C'est-à-dire un instant, dans l'espace très restreint de cette suspension, un instant, l'instinct de mort apparaît tel quel, en tant que tel, c'est-à-dire dissocié de tout lien personnel, de tout lien de plaisir, de toute liaison. Alors, parce que cette déliaison totale, qu'est l'instinct de mort, n'est plus soudainement combinée, comme elle l'est généralement, avec des pulsions de vie, avec le principe de plaisir, on comprend bien que cette déliaison totale est tout à fait destructrice de la personnalité. Alors justement, en quoi consiste la perversion masochiste ? Elle consiste à aménager un agencement de désir dans lequel cet instinct de mort pourra apparaître sans être pour autant complètement destructeur. Autrement dit, ce que fait le pervers selon Deleuze, c'est d'une certaine manière de réinstaller immédiatement, l'instant d'après, cet instinct de mort qui est apparu comme tel. Donc, ce qu'essaie de montrer Deleuze, c'est comment le pervers, l'instant d'après que l'instinct de mort est apparu, le réinstalle sous la juridiction du principe de plaisir. Autrement dit, cette répétition qui a paru impersonnelle, qui a paru dissociée de tout lien, elle est resexualisée immédiatement sur place. La répétition impersonnelle, apathique, mécanique, elle-même donne du plaisir. Si bien que petit à petit, on peut dire, mais sans doute ça serait quelque chose comme une métaphore, quoi, mais enfin, on peut dire que le pervers retrouve d'autant mieux le plaisir, le principe de plaisir, qu'il l'a plus abandonné. Alors, bon, pour conclure, je voudrais finir sur cet aspect du masochisme chez Deleuze, à savoir que ce qui est pour lui le modèle privilégié de l'immanence et de la positivité du désir montre aussi les dangers, les risques inhérents à ce processus du désir, à toutes les situations où l'identité devient absolument indécidable. Alors, dans Mille plateaux, que Deleuze écrit avec Guattari, ce sera encore plus clair. Hein. Ce que le corps masochiste fait voir, c'est plus seulement, je veux dire, le travail du corps, le travail immanent du désir, la construction continue, progressive d'une ligne de fuite, mais ce qu'il fait voir, c'est aussi le problème de ce que pourrait être une désarticulation, une désorganisation totale, une désidentification totale. Autrement dit, ce que le corps masochiste montre, c'est aussi, dans Mille plateaux en tout cas, une possibilité nécessaire d'effondrement. Alors voilà pourquoi, si le masochisme est privilégié, c'est aussi pour sa part d'ombre, c'est aussi pour le risque du lugubre et du macabre qui, selon Deleuze en tout cas, l'accompagne toujours. Et c'est la manière, il me semble, c'est la manière dont Deleuze dit la patience et la prudence nécessaires à l'exploration des marges et à la désidentification qui caractérise, selon lui, l'immanence du désir. Alors, évidemment, suspendre, contester la réalité des strates, des normes qui régulent et qui discriminent le désir. Elles le régulent, je veux dire, organiquement, elles le régulent en signifiant par l'interprétation, elles le régulent aussi par la subjectivité. À quoi nous servons ? Ça, c'est l'organicité. Bon, qu'est-ce que nous voulons dire ? Bon, ça, c'est la signifiance. Et puis, à quoi nous ressemblons ? Si nous savons nous reconnaître, ça, c'est la subjectivité. Suspendre la réalité de ces strates, ça implique toujours aussi qu'on en conserve assez, un peu, des petites réserves, dit Deleuze, de subjectivité, de signifiance et d'organicité, tout simplement pour pouvoir continuer le mouvement, pour pouvoir continuer le tracé du désir, pour le faire durer. En tout cas, il faut garder assez de réserves pour ne pas y perdre la vie. La vie qu'on cherchait d'abord, on ne peut pas l'oublier, à rendre plus forte, plus puissante et plus riche en devenir. Alors, juste pour finir vraiment maintenant, je veux dire, la prudence nécessaire à la construction de ce processus, l'insistance avec laquelle Deleuze et Guattari reviennent sans cesse, s'explique en grande partie, encore une fois, par leur réflexion sur le fonctionnement des normes. Je veux dire, la normalisation, la régulation du désir, la régulation sociale du désir, la discrimination sociale du désir, est certes opposée, ça fait pas de doute, chez Deleuze et Guattari, elle est opposée au processus de variation mineure immanente par lequel le désir concrètement se produit. Mais d'un autre côté, et c'est ça sans doute le plus intéressant, l'une ne va pas sans l'autre. Ce sont aussi deux opérations corrélatives d'un même processus. D'un côté, on comprend bien, la normalisation, son opération, c'est d'abstraire ou d'extraire de ces variations des rapports constants, des règles fixes, à partir desquelles les variations apparaîtront alors comme des écarts, comme des déviations par rapport à une norme standard établie. Mais en même temps, et c'est ça la richesse de ce que dit Deleuze, je crois, c'est que cette normalisation, elle engage aussi toujours l'opération inverse de mise en variation qui travaille la norme et qui la travaille de l'intérieur. Et c'est pourquoi, je crois qu'on comprend peut-être mieux maintenant, pourquoi ces variations ne peuvent pas être transgressives, qu'elles fonctionnent toujours comme des lignes de variabilité, comme des lignes de fuite, qui ont une valeur propulsive. Mais en même temps, elles peuvent toujours, ces variations du désir, être réduites, c'est un risque qu'elles courent toujours, elles peuvent toujours être réduites à un simple écart anormal par rapport à des normes constantes, et là, non plus à valeur propulsive, mais à valeur répulsive. Alors, voilà pourquoi le processus du désir, chez Deleuze et Guattari, est entouré, je crois, par deux risques, deux dangers considérables, qui requièrent toute la prudence nécessaire. Le premier, c'est, je le disais avec Bartleby, quoi, c'est que la ligne de fuite s'effondre dans le trou noir. Mutisme, absence d'œuvre, bon, échec du désir. Mais il y a un autre danger aussi, c'est que cette ligne de fuite du désir soit entièrement rabattue, entièrement sédimentée sur les strates normalisatrices. Et je crois que la transgression est devenue assez vite pour Deleuze une de ces figures réactionnaires du désir qui le font croupir dans ce qu'il appelle la jouissance narcissique du petit pervers, en désignant par là directement Bataille.
Merci Frédéric Rambeau. Dans le feu de l'action, moi j'ai oublié de vous faire une annonce concernant la présence, ou plutôt l'absence, de Éric Fassin, qui s'excuse parce qu'il a un séminaire au Chili. Donc voilà, c'est ma première, donc soyez indulgents. Voilà. Donc maintenant, on va passer à Sabine Procoris.
Je prends ça ou ça ?
Comme tu veux.
Oh, peut-être ça, ça c'est plus mobile. Bonsoir. Je vous remercie. Je remercie Annie Agopian de son invitation. Je suis contente de pouvoir parler un petit peu du travail que j'essaye de faire, de ce que j'essaye de réfléchir. Je dois dire que je serais assez tentée, plutôt que de dire ce que j'avais prévu de dire, de rebondir sur les toboggans, on va dire, proposés par Frédéric Rambeau, que je trouve vraiment très intéressant. Je ne vais pas le faire. Bien que, à certains moments, il y aura des points de rencontre, d'écart, enfin en tout cas des échos. Peut-être je pourrais commencer par dire que moi aussi, je suis un petit peu réservée sur le couple norme-transgression, surtout si on met transgression au singulier, c'est-à-dire en donnant à cette question, enfin ce mot transgression une valeur aussi, absolue. Peut-être transgression au pluriel me conviendrait mieux. Par exemple, pour prendre un exemple très ordinaire, il y a 100 ans, une femme en pantalon accomplissait une transgression. Bon, une petite transgression. Et sur cette question, donc je prendrais, vous voyez, les choses au niveau, plutôt qu'au niveau des grandes idées ou des grandes notions, plutôt au niveau de l'usage du langage ordinaire. C'est vrai qu'on utilise le terme de norme. C'est vrai qu'on utilise le terme de transgression. Qu'est-ce qu'on fait avec ces termes ? À quoi ça nous sert ? Et comment aussi, à certains moments, ça peut nous empêcher de penser ? Parce qu'on est emprisonné par tout ce dont ils sont porteurs. Alors, juste une petite note sur cette histoire de transgression. Admettons ce terme. Et peut-être, dans l'usage même de ce terme, on pourrait différencier l'usage de la notion de transgression où on entend la transgression comme condition d'une jouissance. Et là, ça rejoindrait évidemment ce qu'a critiqué Frédéric Rambeau, c'est-à-dire le rapport du désir à la loi et la transgression, et donc absolument le besoin de la loi pour que la transgression soit la condition d'une jouissance. Mais on peut aussi entendre le terme de transgression plus modestement comme, au fond, un terme qu'on emploie face à quelque chose qui nous paraît justement déconcertant, pas comme on l'aurait attendu, pas comme c'est censé devoir être. Et à ce moment-là, peut-être que la transgression, c'est tout simplement une question, la forme d'une question. Enfin, ce qu'on appellerait transgression, par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure de il y a 100 ans, une femme en pantalon, eh bien, en quoi ça peut être intéressant à ce moment-là, la transgression ? Pas parce que le fait de se mettre en pantalon occasionnera une jouissance subjective particulière, même si accessoirement ça peut être le cas, mais finalement on s'en fiche, mais plutôt en quoi ce geste-là, cette présentation-là de soi, eh bien, va interroger un usage qui est que les femmes ne doivent pas se mettre en pantalon. Alors ça a l'air d'être un truc d'il y a 100 ans, mais il n'y a pas si longtemps, quelqu'un me parlait de ce qu'on trouve actuellement, donc en 2007, au 21e siècle, dans des manuels, dans des cours de formation pour puéricultrices, assistantes familiales, etc. Et il est, paraît-il, dans ses cours écrit noir sur blanc qu'il faut habiller les filles en robe et les garçons en pantalon pour qu'ils aient bien conscience de leur sexe. Et par-dessus le marché, il est préférable de réserver le rose aux filles et le bleu aux garçons. Bon. Comme quoi, vous voyez, il y a quand même des beaux restes de toutes ces choses-là. Donc, j'aimerais aborder les choses par un biais plus directement lié à ma pratique, c'est-à-dire à la pratique de l'analyse, de la psychanalyse, autour de questions que j'essaye de travailler depuis un certain temps, à savoir au fond pourquoi est-ce que quelqu'un vient en analyse, à quoi on est confronté dans un travail de ce genre et qu'est-ce qu'on fait. Et où je rencontrerai, effectivement, on pourrait dire la question d'une sorte de généalogie des normes, j'entends par là, au fond, qu'est-ce qui fait que les êtres humains se sentent gouvernés, au fond, par ce qu'on appelle des normes, c'est-à-dire tout simplement, on pourrait dire, des dispositifs de régulation, d'adaptation au monde environnant, aux autres et à une certaine représentation qu'on a de soi-même. Frédéric citait Canguilhem. Canguilhem distingue bien les normes vitales des normes d'existence. Alors, le processus des normes vitales, effectivement, c'est toujours quelque chose qui est de l'ordre d'une variation possible, et l'anomale, en ce sens, permet de méditer, au fond, le jeu de la variation en tant que résistance à la mort, finalement. C'est ça, au fond, ce qui permet, par exemple, c'est comme ça qu'Anguilhem explique, en ce qui concerne les normes vitales, que la norme, par exemple, les normes d'un homme de 35 ans dans sa vie ordinaire quotidienne n'est pas la même que celle d'un vieillard de 85 ans. C'est-à-dire que ce qui permet au vieillard de 85 ans de continuer à vivre une vie humaine, finalement, c'est d'avoir pu, en quelque sorte, adapter ces normes, que ces normes se soient transformées. La possibilité, au fond, de transformation des normes, vitalement, est quelque chose qui permet, effectivement, de continuer à vivre, hein, jusqu'au moment où, évidemment, on ne vit plus. Et Canguilhem cite, d'ailleurs, ce beau texte de Fitzgerald dans La Fêlure, au propos de la question dans un texte de Canguilhem sur la guérison. Il cite ce texte où Fitzgerald dit « Bien entendu, tout processus de vie est un processus de démolition, mais la force d'une grande intelligence est de tenir à la fois la certitude que ça sera détruit et en même temps le mouvement pour ne cesser de continuer à vivre quand même malgré tout. » C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ressemble bien d'ailleurs à ce « je sais bien mais quand même » du supposé pervers. Enfin, je suis un peu dérangée, gênée par ce concept-là. Mais c'est-à-dire « je sais bien mais quand même, je sais bien que les femmes n'ont pas de vénis, mais quand même, etc. » Alors, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur cette question du fétichisme, parce que je pense que c'est chez Freud, c'est vraiment une théorie sexuelle infantile qui empêche de penser autre chose concernant la question de la représentation de la sexuation, c'est-à-dire du rapport de ce qu'on appelle différence des sexes, que j'écris dans un texte, enfin un livre que j'ai écrit il y a quelques années, différence des sexes en un seul mot, pour indiquer par là qu'au fond on croit que c'est une chose la différence des sexes, alors que ce n'est rien d'autre que l'interprétation d'une perception donnée de ce qui est, enfin de ce que l'on peut rencontrer. On l'interprète en termes de différence des sexes, c'est-à-dire effectivement le partage binaire dont parlait Annie Hogopian en commençant, mais après tout, est-ce que ça ne sert pas à éviter de penser quelque chose de beaucoup plus trouble, de beaucoup plus troublant, de beaucoup plus difficile, qui n'est pas le rapport binaire d'opposition, mais qui est la contiguïté, le rapport de ressemblance et le rapport de passage. Donc je laisse cette question pour l'instant ouverte, j'y reviendrai. Donc au fond, moi j'ai commencé effectivement par réfléchir sur quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, en fait c'était lié très concrètement à tout le discours, on va dire normatif au sens de l'imposition d'un standard des normes de... Alors oui, je disais qu'Anguilhem, les normes, il distingue les normes vitales et les normes sociales. Et les normes sociales, ce que dit Canguilhem, c'est qu'elles sont à inventer et non pas à observer. Et je crois qu'on est en plein dans notre question, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire pour des êtres humains d'être au fond confrontés au fait d'avoir à inventer sans arrêt les normes, pas par une régulation, on va dire, biologique, naturelle, vitale, si vous voulez, des processus physiologiques, etc., mais par quelque chose qui a trait aux relations humaine, qui a trait au fond au rapport à l'intérieur même d'ailleurs d'un sujet entre le collectif et le singulier. Donc au fond, je vous disais tout à l'heure que j'avais commencé à travailler un peu sur cette question des normes petit à petit, au moment où il y a eu tous ces débats sur le Pax, et où il y a eu, on a assisté à beaucoup de discours venant du champ de la psychanalyse, qui étaient des discours vraiment de rappel à l'ordre, au nom de justement cette fameuse différence des sexes, dont l'observation est supposée être au fondement même de la pensée. Autrement dit, si on s'écarte de ça, bien d'une certaine manière, on risque de devenir fou. Comme si penser, c'était forcément opérer comme un ordinateur, hein, sur le mode binaire. 0, 1, oui, non, blanc, noir. Alors, bon, sur cette question du binaire, bon, ça fait quand même, on a des sérieux doutes depuis longtemps. Hein, je veux dire, bon, en philosophie, bon, Nietzsche quand même a questionné un peu là-dessus. Puis il y a une anthropologue dont je vous recommande vivement la lecture, qui est extrêmement stimulante, qui est Mary Douglas, qui est morte il y a quelques mois, qui dans un livre qui s'appelle De la souillure, écrit qu'au fond on a exagéré les différences entre masculin, féminin, haut, bas, blanc, noir, enfin vous savez toutes ces choses dont nous parle Françoise Héritier en nous disant que c'est le fondement même de la pensée et donc de l'ordre humain. On a exagéré toutes ces différences pour créer, dit-elle, un semblant d'ordre. Pour créer un semblant d'ordre, et elle explique que quand elle raconte un peu toutes ces choses-là à ses étudiants, il y en a un qui, affolé, lui dit « Mais alors, vous allez transformer notre monde en une sorte de jelly ». Alors, je pense que la question, elle est vraiment là, c'est-à-dire, je pense que la question de la norme, d'un certain côté, elle a directement affaire à ça, c'est-à-dire au rapport à l'angoisse de ce qui serait informe, justement. C'est-à-dire, d'une certaine manière, la norme... alors, encore, on pourrait peut-être ajouter une petite distinction, c'est-à-dire tout à l'heure je disais que je parlais des normes, de normes sociales dont parlait Canguilhem, je pense qu'on peut avancer un petit peu plus et parler du rapport entre les normes sociales qui sont grosso modo ce qui semble faire consensus concernant les modes de vie. Bon, on va dire ça comme ça, très généralement. Et puis les normes d'existence qui sont la manière dont chaque sujet... Chaque personne singulièrement, là où elle se trouve, dans son histoire, etc., d'une certaine manière bricole avec ses normes sociales, les adapte, les traduit, plus ou moins difficilement, pour produire ses propres normes d'existence, mais pas de manière close, mais évidemment en rapport avec le monde dans lequel nous vivons, dans lequel chacun d'entre nous vit. Donc, je pense que cette question des normes, elle est évidemment complexe, et c'est pour ça que le rappel à l'ordre proféré à l'époque du Pax par les psychanalystes au nom de la différence des sexes m'a conduite à réfléchir un petit peu à, au fond, qu'est-ce que c'était cette histoire, justement, de la supposée évidence de la différence des sexes comme fondement de l'ordre humain, comme fondement de... Bon, je ne vais pas se lancer dans ces histoires... lacanienne, enfin le fondement du symbolique, et comme condition même du désir, justement, puisque Frédéric Rambaud parlait du désir. Alors, je suis obligée d'avouer que je suis également un petit peu réservée sur le terme même de désir, parce que, pour moi, c'est un terme qui est trop chargé d'une certaine histoire philosophique. J'ai beaucoup de respect pour le terme de désir, mais je crains que ce soit un terme qui fonctionne lui-même comme rempli d'injonctions. J'avais d'ailleurs dans le temps écrit un petit texte un peu critique sur certaines perspectives psychanalytiques qui s'appelait « Désirer, nous ferons le reste ». Et c'était évidemment la parole du psychanalyste. Désirer, parce que ça c'est humain, c'est, il faut désirer, et puis nous ferons le reste, c'est-à-dire nous vous fournirons les objets, les manières, etc., etc. En fait, chez Freud, il n'est pas question de désir, jamais, il est question de vœux. Et qu'est-ce que c'est qu'un vœu ? Un vœu, c'est juste une représentation qui articule, d'une certaine manière, un certain état du rapport, au fond, à l'autre, aux choses, au monde. Mais les vœux eux-mêmes, ils sont extrêmement labiles, ils sont extrêmement peu consistants, d'une certaine manière. Ils sont pas du tout... Il n'y a pas vraiment, on pourrait dire, d'immanence du désir dans un sujet... Il y a une sorte d'urgence à former des vœux pour survivre. Une sorte d'urgence à former des vœux pour survivre. Et de même, d'ailleurs, pour revenir au masochisme, je pense que c'est très lié à la question du masochisme. Il me semble, en tout cas, que cliniquement, Le masochisme, et je pense que Deleuze a parfaitement raison de dire que ce n'est pas l'envers du sadisme, mais il me semble que c'est juste une sorte de stratégie de survie, d'une certaine manière. Parce que, au fond, ce que je voudrais essayer de faire comprendre, et c'est là-dessus que je travaille en ce moment, et particulièrement sur cette question de la sexuation, de la supposée différence des sexes, c'est que, au fond, cette histoire d'abord, je suis partie aussi d'une question qui, au fond, les normes, est-ce que c'est si consistant que ça, après tout ? Est-ce que les normes, c'est tellement consistant, ou est-ce que ce n'est pas, au niveau, je dirais pas seulement de ce que décrit Canguilhem sur la variation des normes vitales, mais est-ce que ce qu'on appelle une norme d'existence et une norme sociale, c'est pas quelque chose de beaucoup plus indécidable, d'une certaine manière, intrinsèquement, que ça n'en a l'air dans son fonctionnement ? C'est-à-dire, au fond, le paradoxe peut-être des normes d'existence, c'est-à-dire de la manière dont nous incorporons les normes sociales, c'est que ça a l'air d'être très assuré, ça a l'air d'être très sûr, et en fait, est-ce que ça n'est pas profondément inconsistant, profondément précaire, sans que ce soit ce point-là réparable ? Alors, je vais essayer très rapidement de le faire sentir sur juste l'usage de ces mots « homme-femme ». Et en racontant ça, je m'étais revenu à l'esprit, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Woody Allen, un vieux film de Woody Allen, où à un moment donné, il a un symptôme assez, effectivement, qui est une bonne représentation de l'angoisse, dont je parlais tout à l'heure, il devient flou. Je ne sais pas si vous vous souvenez de c'est un film, alors c'est pas qu'il voit flou, c'est que tout d'un coup, il est flou. C'est-à-dire que sa propre personne, son propre visage, alors on le voit dans le film, tout d'un coup, à certains moments, dans certaines situations, eh ben, il n'a plus de contours. Il devient flou, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est plus lui-même, d'une certaine manière. Donc, alors, je crois que cette question du devenir flou, disons, elle me semble décrire très exactement, au fond, on pourrait dire, l'état réel des normes. Des normes d'existence, des normes qui vous gouvernent, et en même temps, l'intolérance à cet état précaire, flou, indécidable des normes, je pense, est ce qui, de manière inversée, nous conduirait à nous aveugler d'une certaine manière sur ça, et à faire prendre en masse, si je puis dire, ce flou pour en faire quelque chose qui a des contours, et à quoi on peut s'accrocher. Bon. Alors, pourquoi est-ce que je pense que les normes, en fait, c'est flou. C'est radicalement flou, et que nous avons à nous essayer de travailler avec ce flou qui n'est pas non plus de l'imprécision. Alors, je pense qu'on pourrait le décrire à partir d'une sorte de passage entre ce qui serait, disons, la situation de consensus. Alors, les normes seraient ce qui opère, effectue une sorte de consensus. Mais un consensus, qu'est-ce que c'est ? C'est au fond l'idée qu'on est d'accord, qu'il y a une sorte de communauté de perception ou de réaction ou d'opinion sur une question donnée. Bon, par exemple, qu'est-ce que c'est un homme ou qu'est-ce que c'est une femme ? Bon. Je pense qu'on pourrait passer du consensus peut-être. Le passage, ce qui m'intéresserait de décrire pour réfléchir à cette histoire du flou ou de l'indétermination des normes, c'est le passage du consensus à l'accordage. C'est-à-dire, au fond, il ne s'agit pas non plus de nous dire que nous pouvons vivre en dehors de cet état, si vous voulez, de cet exercice, de ce gouvernement par les normes. Non pas par la norme, mais par les normes, et les normes en mouvement, on va dire. Alors, pour l'indiquer, je vais partir de quelque chose d'absolument simple, qui est justement le fonctionnement même du langage ordinaire, mais aussi d'une question, enfin, toute simple, toute bête, comment ça se fait que les normes se transforment dans le monde social et dans l'intimité même de chacun. Comment ça se fait que si vous retrouvez une correspondance amoureuse de votre arrière-grand-mère, par exemple, vous verrez que même s'il y a des choses que vous comprenez qui sont voisines des vôtres, il y a des choses qui vous paraissent à des années-lumière. Comment ça se fait que les normes se transforment ? Et comment ça se fait aussi que ces transformations des normes s'opère ainsi, on pourrait dire, de proche en proche. Non pas tellement par des grosses transgressions, par des espèces de sorties hors de la norme, et je ne crois pas du tout aux hors normes, mais plutôt par des petits, par des, comment dire, par des potentialisations de se bouger propre à la norme. Par exemple, la parentalité homosexuée. Est-ce que c'est du hors norme? Est-ce que c'est une transgression? Ou est-ce que c'est, on pourrait dire, une extension du domaine de la norme? Une transformation de la norme plutôt de proche en proche qu'en étant complètement à l'extérieur? L'expérience qu'on peut observer fait apparaître que c'est plutôt quelque chose qui travaille à modifier la norme, non pas à supprimer la norme, mais à la modifier, à la transformer, et un certain nombre, et ce qui peut être perçu de l'extérieur, disons, de ces expériences-là, comme une transgression, il me semble que c'est transgression au sens de la question posée à l'évidence, disons, de l'interprétation univoque de la norme ou des normes. Et je parle effectivement là d'interprétation, vous allez tout de suite comprendre pourquoi, parce que il me semble que ce qui nous permet de comprendre en fait cet état fluctuant de la norme ou des normes, c'est justement le rapport des normes au fond, eh bien, à l'usage qui est le nôtre d'un langage commun, d'un langage ordinaire. Alors, je me réfère là à ce que un énoncé de Wittgenstein, qui est un philosophe qui a beaucoup réfléchi sur justement le langage ordinaire, et il dit qu'au fond, apprendre un langage, entrer dans le langage pour les êtres humains, c'est en même temps comprendre un langage ou apprendre un langage, c'est apprendre ou comprendre une forme de vie. C'est-à-dire, dès lors qu'on entend, on fait usage des mots, des mots qui nous entourent, des mots du commun, en même temps on incorpore, si je puis dire, eh bien, les significations attachées à ces mots, l'histoire de ces significations, mais en même temps, eh bien, on les interprète d'une manière qui peut être plus ou moins floue, justement. Alors, il me semble que parmi les mots ce que Goffman, le sociologue Erwin Goffman, appellerait ce qui donne des cadres primaires, c'est-à-dire des cadres des sortes de schémas, si vous voulez, qui modèlent la perception et qui nous donnent de quoi interpréter un certain nombre de situations. Eh bien, justement, les signifiants de la différence des sexes, pour dire ça comme ça, les mots hommes et femmes, quand je dis signifiant, c'est juste les mots, mais c'est un peu plus que ça. Le signifiant au sens psychanalytique du terme, ce n'est pas seulement le mot dont le dictionnaire vous donne le sens. C'est la façon dont les mots véhiculent au fond toutes sortes d'histoires au pluriel que nous incorporons sans le savoir, mais aussi que nous interprétons. Autrement dit, les mots, effectivement, ils portent plein de choses, et dès lors que, au fond, les mots nous traversent, on pourrait dire, et qu'on se met à parler, eh bien, ou qu'on d'une certaine manière qu'on rentre dans le langage, eh bien, on essaye de se traduire, on pourrait dire, ce qu'on comprend de ces mots-là. Alors les mots hommes et femmes font partie de ces signifiants, on va dire, basiques, hein, c'est-à-dire depuis qu'on arrive au monde, le monde est partagé entre ce qu'on appelle des hommes et ce qu'on appelle des femmes. Maintenant, qu'est-ce que c'est des hommes et des femmes? Bien malin qui l'expliquera. Et Freud est le premier à le dire, d'une certaine manière. D'une part, Freud est le premier à le dire, et je vais vous donner deux petits textes de Freud sur le masculin et le féminin qui sont de ce point de vue-là tout à fait intéressants. J'avais mis longtemps à me rendre compte à quel point ils étaient étranges, ces textes, et en même temps tout à fait, finalement, simples, hein, mais la portée de ces textes. Et en même temps, par ailleurs, le dispositif psychanalytique, c'est un dispositif de parole. Freud définit ça comme la cure en parlant, the talking cure, c'est-à-dire la cure en parlant. Ça veut dire quoi? Que dans ce dispositif-là, au fond, le fonctionnement même de la manière même dont les mots nous ont traversés, modelés, dont on s'est raconté sa propre histoire, ses propres histoires, la propre représentation de soi à travers ces mots, apparaît et peut se modifier et se retraduire. C'est-à-dire, au fond, il y a les doutes qu'on a colmatés par, justement, des évidences consensuelles, vont en quelque sorte se fissurer pour nous réouvrir à « mais peut-être que ça aurait pu être interprété autrement, peut-être que ça veut dire autre chose ». Alors, reprenons ces termes de masculin, de féminin, et voyons comment, au fond, Freud, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? J'ai trouvé deux, je vous citerai deux petits textes qui sont assez étranges. Il est alors, n'oubliez pas que Freud, quand même, 19e siècle, positiviste, ambition est affichée, affirmée toujours de rigueur scientifique, et voilà ce qu'il nous écrit. Il est indispensable de se rendre compte que les concepts de masculin et de féminin, dont le contenu paraît si peu équivoque à l'opinion commune, et vous avez là la norme, si peu équivoque à l'opinion commune, font partie des notions les plus confuses du domaine scientifique. Donc vous voyez, il y a d'un côté l'opinion commune, c'est pas confus, hein, enfin, c'est-à-dire c'est pas équivoque plus exactement, mais si on y regarde de plus près d'un point de vue entre guillemets scientifique, sur quoi on tombe? Sur de la confusion. Alors, on pourrait se dire, ah ben, il suffit d'élucider. Il suffit de sortir de la confusion. Par exemple, comme le propose François Héritier, de dire que ben voilà, c'est clair, il y a les hommes qui ont un pénis et les femmes qui n'en ont pas. Et à partir de là, on peut penser sortir de la confusion. Bon, et même Freud, il tombe dans ce truc-là quand il nous raconte son espèce de conte là, du fétichiste. Ce que l'enfant voit, c'est que la femme n'a pas de pénis. Bien sûr qu'il le voit. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il en fait? Comme on dit chez les comédiens, est-ce qu'il fait un sort pareil à cette affaire? Et s'il lui fait un tel sort, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est pour nier la supposée castration féminine? Ou est-ce que c'est pour éviter de percevoir quelque chose qui est peut-être plus difficile à penser? À savoir que peut-être que les hommes n'ont pas de... que les femmes n'ont pas de pénis, mais que les hommes en ont un, et par contre, ils ont tous les deux des fesses, par exemple. Et pour plein des choses, ils se ressemblent énormément. Pour plein d'autres parties du corps parfaitement érotisées, c'est pas si différent que ça. C'est-à-dire, oui, il y a des dissemblances, mais il y a aussi des ressemblances. Alors comment on joue dans le registre de la relation entre ressemblance et dissemblance? Comme dit Marie Douglas, on tranche, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire qu'on dit d'un côté il y a ceci, de l'autre côté il y a cela. Et Erwin Goffman, d'ailleurs, il a écrit un petit livre, j'y pense, un petit livre sur l'arrangement entre les sexes, dont il y a une page absolument fantastique, mais au sens presque du fantastique, c'est-à-dire de la production d'une sorte de fiction, hein, où il fait une analyse de la séparation des toilettes dans les lieux publics, homme-femme, gentlemen, ladies, homme-femme. Alors dans certains endroits, il y a aussi handicapé homme, handicapé femme ou pas, enfin bon. En tout cas, la séparation des toilettes, et il fait la remarque suivante, il dit finalement sur des fonctions physiologiques qui sont très très peu différentes quand même, eh bien on a éprouvé le besoin dans l'espace public d'opérer une séparation qui nous fait croire que les hommes et les femmes sont vraiment très différents. Pourquoi faire, finalement? Donc, notions les plus confuses du domaine scientifique, et puis un petit peu plus loin, dans un autre texte, il nous dit « Quant à l'essence de ce que, au sens conventionnel ou au sens biologique, on nomme masculin et féminin, la psychanalyse ne peut l'élucider. » Donc on repassera pour l'élucidation. « Elle reprend à son compte ces deux concepts, dans leur non-équivocité pour l'opinion commune, mais en même temps dans leur confusion, et les met à la base de ses travaux. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mettre à la base de ses travaux? Eh bien, des notions qui sont intrinsèquement, qui sont à la fois non équivoques et pas du tout décidables, si vous voulez, dans leur contenu. Je pense que ça, c'est le cœur de la question, moi, qui m'intéresse, si vous voulez. Comment ça se fait? Je pense que c'est lié, justement, au fait que tout ce qui a été développé aussi dans la même époque que Freud, dans le domaine de la philosophie du langage, avec Wittgenstein, puis ensuite avec Austin. Alors, je pense à Austin qui a écrit ce livre « Quand dire, c'est faire », qui nous parle du performatif, mais surtout sur lequel Judith Butler s'appuie énormément pour dire qu'au fond, nous performons, et que c'est les normes, nous les performons dans les rôles que nous jouons. C'est-à-dire que nous accomplissons, comme si nous les exécutions, d'ailleurs plus que nous ne les interprétions, ce qui serait au fond des contenus signifiants à peu près clairs. Enfin, en tout cas des contenus signifiants, qui seraient rendus clairs par leur performance, par leur actualisation. Alors, il me semble que le Austin, moi, qui m'intéresse, c'est celui qui est plus proche de Wittgenstein et qui réfléchit sur le langage ordinaire. et qui nous explique justement qu'au fond, les mots du langage ordinaire n'ont enfin que comment dire que parler, employer les signifiants, employer les mots, c'est pas d'abord nommer, c'est d'abord s'entendre. C'est pas d'abord nommer, c'est d'abord s'entendre. Ça veut dire que si je dis ceci est une vache, ou ceci est une femme, ou ceci est un homme, ceci est une bouteille d'eau, certes, je désigne un objet, mais surtout, je m'attends à ce que quand je dis ce mot, vous ayez une certaine interprétation de ce que je dis. Donc, la croyance que, comment dire, parler c'est nommer, c'est la croyance qui, au fond, va nous conduire à penser que ben on voit la réalité telle qu'elle est, puis ensuite on la nomme, et puis on essaie d'être aussi clair que possible, et à partir de là, ben, c'est normal que justement on puisse justement que les normes s'appuieraient là-dessus. Or, ce que Wittgenstein fait apparaître, est-ce que l'expérience ordinaire, bon, Freud le développe aussi dans d'autres textes où il montre bien que quand un enfant, un être humain vient au monde, au fond, si vous imaginez notre situation, on ne peut même pas se la représenter. Bon, même quand soit on arrive dans un pays, je ne sais pas moi, en Chine, et qu'on ne parle pas un mot de chinois, on arrive quand même à se retraduire dans sa propre langue, même si on se trompe du tout au tout, ce qu'on suppose être le message qui nous est envoyé. Mais quand on arrive au monde, on n'a rien de tel. On n'a rien de tel, on n'a rien d'autre que essayer de s'orienter pour survivre, justement. C'est pour ça que le masochisme est une condition de survie, d'une certaine manière. Bon, et donc, la manière dont on entre dans le langage, finalement, est liée, au fond, à des interprétations que nous faisons, qui peuvent être plus ou moins adéquates à ce que les autres entendre par ce mot-là, qui peuvent être tout à fait autre chose. Et tout le monde a eu cette expérience dans l'enfance. Je cite quelquefois, moi, cette petite expérience enfantine dont je me souviens. Je me souviens que j'avais demandé à ma mère de me donner une surprise, parce que j'avais entendu une copine à moi me dire qu'elle avait eu une magnifique surprise, et sa surprise, c'était un accordéon. Alors ma mère m'a donné, en fait, une tête d'oreiller avec des petits dessins dessus, et moi, déception fondamentale, parce que je pensais qu'évidemment, j'aurais un accordéon. Bon, malentendu, évidemment, mais c'est le fondement même de notre... Alors après, j'ai appris qu'une surprise, c'était autre chose, ça s'appelait accordéon, etc. Mais enfin, au fond, on n'arrête pas de patauger là-dedans, d'une certaine manière, et même quand on croit entendre la même chose que ce que dit, ce que l'autre croit vous dire, en fait, il y a toujours un bouger. Il y a toujours un bouger. Au fond, on n'arrête pas de traduire, de retraduire, mais il n'y a pas de texte original, si vous voulez. C'est-à-dire quelque chose qui serait une garantie du langage, hors du langage. C'est-à-dire hors de l'accord mutuel entre les sujets parlants, si vous voulez. Alors, c'est pour ça que je disais qu'au fond, la norme, elle prend son racine là-dedans. Elle prend sa racine là-dedans, c'est-à-dire au fond, elle s'enracine sur le fait que, eh ben, il y a des choses qui ont l'air plus partagées que d'autres, sur lesquelles il semble y avoir justement un consensus, mais est-ce que consensus veut dire qu'il y a une garantie externe au consensus? Non. Le consensus, c'est un certain état de l'accordage, mais qui dit accordage dit toujours quelque chose qui est en risque de se briser, de se fissurer, d'être fissuré, de n'être jamais, au fond, complet, d'être toujours réinterprétable, réinterrogeable. Et il me semble que, effectivement, sur des termes comme ces termes d'hommes et de femmes, on est évidemment en plein là-dedans, particulièrement sur ces termes, quand on voit tout simplement ce qui se passe dans le monde social, ce qui se passe chez chacun, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un masculin, féminin, en gros, comme dirait Freud, ce sera à peu près ce que vous attendez, mais dans le détail. Et là, je cite vraiment Freud en le transposant, parce que c'est Freud fait une comparaison pour expliquer, il veut raconter comment c'est la vie psychique, et il dit, on pourrait comparer la vie psychique à ceci, à cela. Il fait une comparaison, il propose une image, et il dit, en gros, ce sera à peu près ce que vous attendez, mais dans le détail, il faudra vous accommoder de différences. Donc, comment faire avec ces petites différences, ces petits écarts? Je crois que c'est toute la difficulté de la précarité des normes, parce que les normes fonctionnent justement font des accordages incertains qui se déguisent en consensus, mais qui sont forcément, à un moment ou à un autre, mis en crise, ne serait-ce que parce qu'à l'intérieur de chacun, il peut y avoir des conflits de normes. Par exemple, je ne sais pas moi, je parlais de l'injonction à désirer de telle ou telle manière. L'injonction à désirer, par exemple, pour la plupart des femmes, la maternité, ben, y a une injonction à désirer être mère. Bon, y a une injonction à désirer la maternité. C'est vrai que dans l'expérience singulière des femmes, c'est quand même nettement plus ambigu, nettement plus ambivalent. Hein. Et dans un certain nombre de situations, par exemple de couples de femmes, il peut y avoir cette injonction pour être une vraie femme à avoir un enfant. Alors on peut avoir envie d'un enfant réellement par des tas de chemins qui passent par... qui sont assez mystérieux, assez énigmatiques. Ça peut être un vœu, si vous voulez. Mais est-ce que ce vœu est une expression du désir spécifiquement féminin, par exemple, qui accomplirait la norme d'être femme ? Ou est-ce que c'est un vœu qui, effectivement, opère dans telle ou telle configuration qui ne donnera pas forcément dans son accomplissement la preuve qu'on est une femme, par exemple ? Donc, bon, je veux dire... Voilà, des exemples comme tels, je veux dire, je parle dans des couples de femmes, mais aussi dans des couples d'hommes et de femmes, c'est-à-dire l'injonction à la maternité, elle fonctionne comme une sorte de norme du désir qui, en même temps, prouvera qu'on arrive à être une vraie femme, disons. Alors, c'est quoi une vraie femme ? Mystère. Hein. Cela pèse moins sur les hommes, ce désir-là, mais il y en a d'autres, si vous voulez. Donc, bon... je vais m'arrêter là, si vous voulez. Là, juste pour résumer, je dirais, au fond, plus on admet, on arrive à supporter la précarité foncière des normes liées à la nécessité, enfin, comment dire, à ce que Conrad appelle le sentiment d'inévitable solidarité entre tous les hommes. Bon, c'est-à-dire, il ne peut pas y avoir autre chose que du lien entre les êtres humains. Et dès lors qu'il y a lien, il y a normes. Ne serait-ce que pour pouvoir parler, hein. Mais en même temps, elles sont fondamentalement précaires, et moins on admet qu'elles sont précaires, plus elles peuvent fonctionner à l'envers, comme par une emprise extrêmement violente, extrêmement rude, et extrêmement paralysante. Et je pense qu'au fond, le travail de l'analyse, c'est effectivement de pouvoir passer de ces consensus, de consensus, au fond, illusoires, imaginaires, à des accordages beaucoup plus délicats, beaucoup moins complet. Et je voudrais terminer en citant juste une amie psychanalyste avec qui je discutais l'autre jour et qui me disait que travaillait au fond, elle disait qu'au fond le travail de l'analyste, contrairement à ce que Harold Searle décrit quand il parle de l'effort pour rendre l'autre fou, c'est-à-dire pour l'exclure finalement, c'est l'effort pour rendre l'autre normal. Normal mais pas normé. Normal, ça veut dire inscrit dans l'échange avec les autres êtres humains et avec le monde, quels que soient, au fond, les chemins qu'il emprunte et qui sont toujours des chemins incertains. Et je terminerai juste sur une chose qui sera liée, au fond, à la visée d'une analyse. Bon, souvent, on me pose la question, est-ce que, par exemple, si quelqu'un vient vous voir en vous disant « je viens faire une analyse parce que je veux arriver à, je sais pas moi, avoir un enfant » ou « parce que je veux changer de sexe » ou parce que ceci, cela, qu'est-ce que vous faites ? Bah, rien de spécial, si vous voulez. Rien de spécial, simplement, la seule chose qui me paraît importante dans le travail analytique, c'est que la représentation but, c'est-à-dire ce qui est censé être, au fond, une norme individuelle devenue idée, qui fonctionne comme un idéal à remplir, puisse fonctionner non pas comme, justement, un but, parce qu'une fois qu'on y est, alors là, vraiment, c'est fini, mais comme un passage. Alors, la manière dont chacun passe par tel ou tel ou tel jalon, ça ne me regarde pas en tant qu'analyste. Par contre, ce qui me regarde, en tout cas ce qui me paraît être important, c'est effectivement de permettre que les buts qui fonctionnent comme des normes sous forme d'idéaux singuliers puissent justement fonctionner comme des questions toujours ouverte, c'est-à-dire qu'on traverse, si on veut par exemple avoir un enfant, se marier, changer de travail, changer de sexe, ce que vous voudrez comme but énoncé ou affiché, ça puisse avoir lieu comme un passage, mais pas comme un but. Parce que sans ça, on retombe dans l'emprise de la norme, fût-elle une norme transgressive.
Merci Sabine. Merci Sabine. On va peut-être passer aux questions, aux remarques dans la salle, s'il y en a. Sinon, moi j'en ai plein. Voilà. Donc.